Xavier de Maistre, expédition nocturne autour de ma chambre. Pour jeter quelque intérêt sur la nouvelle chambre dans laquelle j'avais fait une expédition nocturne, je dois apprendre aux curieux comment elle m'était tombée en partage. Continuellement distrait de mes occupations dans la maison bruyante que j'habitais, je me proposais depuis longtemps de me procurer dans le voisinage une retraite plus solitaire, lorsqu'un jour, en parcourant une notice biographique sur M. de Buffon, j'y lus que cet homme célèbre avait choisi dans ses jardins un pavillon isolé qui ne contenait aucun autre meuble qu'un fauteuil et le bureau sur lequel il écrivait, ni aucun autre ouvrage que le manuscrit auquel il travaillait. Les chimères dont je m'occupe offrent tant de disparates avec les travaux immortels de M. de Buffon que la pensée de l'imiter, même en ce point, ne me serait sans doute jamais venue à l'esprit, sans un accident qui m'y détermina. Un domestique, en ôtant la poussière des meubles, crut en voir beaucoup sur un tableau peint au pastel que je venais de terminer. Il essuya si bien avec un linge qu'il parvint en effet à le débarrasser de toute la poussière que j'y avais arrangée avec beaucoup de soin. Après m'être mis fort en colère contre cet homme qui était absent et ne lui avoir rien dit quand il revint, suivant mon habitude, je me mis aussitôt en campagne et je rentrai chez moi avec la clé d'une petite chambre que j'avais louée au cinquième étage dans la rue de la Providence. J'y fis transporter dans la même journée les matériaux de mes occupations favorites et j'y passai dans la suite la plus grande partie de mon temps à l'abri du fracas domestique et des nettoyeurs de tableaux. Les heures s'écoulaient pour moi comme des minutes dans ce réduit isolé, et plus d'une fois mes rêveries m'y ont fait oublier l'heure du dîner. Ô douce solitude ! J'ai connu les charmes dont tu enivres tes amants. Malheur à celui qui ne peut être seul un jour de sa vie sans éprouver le tourment de l'ennui, et qui préfère, s'il le faut, converser avec des sots plutôt qu'avec lui-même. Je l'avouerai toutefois, j'aime la solitude dans les grandes villes. Mais à moins d'y être forcé par quelques circonstances graves, comme un voyage autour de ma chambre, je ne veux être ermite que le matin. Le soir, j'aime à revoir les faces humaines. Les inconvénients de la vie sociale et ceux de la solitude se détruisent ainsi mutuellement, et ces deux modes d'existence s'embellissent l'un par l'autre. Cependant, l'inconstance et la fatalité des choses de ce monde sont telles que la vivacité même des plaisirs dont je jouissais dans ma nouvelle demeure aurait dû me faire prévoir combien il serait de courte durée. La Révolution française, qui débordait de toutes parts, venait de surmonter les Alpes et se précipitait sur l'Italie. Je fus entraîné par la première vague jusqu'à Bologne. Je gardai mon ermitage dans lequel je fis transporter tous mes meubles jusqu'à des temps plus heureux. J'étais depuis quelques années sans patrie et j'appris un beau matin que j'étais sans emploi. Après une année passée tout entière à voir des hommes et des choses que je n'aimais guère et à désirer des choses et des hommes que je ne voyais plus, je revins à Turin. Il fallait prendre un parti. Je sortis de l'auberge de la bonne femme où j'étais débarqué dans l'intention de rendre la petite chambre au quatrième propriétaire et de me défaire de mes meubles. En rentrant dans mon ermitage, j'éprouvais des sensations difficiles à décrire. Tout y avait conservé l'ordre, c'est-à-dire le désordre dans lequel je l'avais laissé. Les meubles entassés contre les murs avaient été mis à l'abri de la poussière par la hauteur du gîte. Mes plumes étaient encore dans l'encrier desséché et je trouvais sur la table une lettre commencée. « Je suis encore chez moi, » me dis-je avec une véritable satisfaction. « Chaque objet me rappelait quelque événement de ma vie et ma chambre était tapissée de souvenirs. Au lieu de retourner à l'auberge, je pris la résolution de passer la nuit au milieu de mes propriétés. J'envoyai prendre ma valise et je fis en même temps le projet de partir le lendemain, sans prendre congé ni conseil de personne, m'abandonnant sans réserve à la Providence. Tandis que je faisais ces réflexions, et tout en me glorifiant d'un plan de voyage bien combiné, le temps s'écoulait, et mon domestique ne revenait point. C'était un homme que la nécessité m'avait fait prendre à mon service depuis quelques semaines, et sur la fidélité duquel j'avais conçu des soupçons. L'idée qu'il pouvait m'avoir emporté ma valise s'était à peine présentée à moi que je courus à l'auberge. Il était temps. Comme je tournais le coin de la rue où se trouve l'hôtel de la bonne femme, je le vis sortir précipitamment de la porte, précédé d'un portefeuille chargé de ma valise. Il s'était chargé lui-même de ma cassette, et au lieu de tourner de mon côté, il s'acheminait à gauche dans une direction opposée à celle qu'il devait tenir. Son intention devenait manifeste. Je le joignis aisément, et sans rien lui dire, je marchais quelque temps à côté de lui avant qu'il s'en aperçût. Si l'on voulait peindre l'expression de l'étonnement et de l'effroi portés au plus haut degré sur la figure humaine, il en aurait été le modèle parlant puisqu'il me vit à ses côtés. J'eus tout de suite le loisir d'en faire l'étude, car il était si déconcerté de mon apparition inattendue et du sérieux avec lequel je le regardais, qu'il continua de marcher quelque temps avec moi sans proférer une parole, comme si nous avions été à la promenade ensemble. Enfin, il balbutia le prétexte d'une affaire dans la rue Grandoire, mais je le remis dans le bon chemin et nous revînmes à la maison où je le congédiai. Ce fut alors seulement que je me proposais de faire de nouveaux voyages dans ma chambre pendant la dernière nuit que je devais y passer, et je m'occupais à l'instant même des préparatifs. Depuis longtemps, je désirais revoir le pays que j'avais parcouru jadis si délicieusement et dont la description ne me paraissait pas complète. Quelques amis qui l'avaient goûté me sollicitaient de le continuer, et je m'y serais décidé plus tôt sans doute si je n'avais pas été séparé de mes compagnons de voyage. Je rentrais à regret dans la carrière, hélas, j'y rentrais seul. J'allais voyager sans mon cher Joannetti et sans l'aimable Rosine. Ma première chambre elle-même avait subi le plus désastreuse révolution. Que dis-je, elle n'existait plus. Son enceinte faisait alors partie d'une horrible masure noircie par les flammes, et toutes les inventions meurtrières de la guerre s'étaient réunies pour la détruire de fond en comble. Le mur auquel était suspendu le portrait de Madame de Castel avait été percé par une bombe. Enfin, si heureusement je n'avais pas fait mon voyage avant cette catastrophe, les savants de nos jours n'auraient jamais eu connaissance de cette chambre remarquable. C'est ainsi que, sans les observations d'Hipparque, ils ignoreraient aujourd'hui qu'il existait jadis une étoile de plus dans les Pléiades qui est disparue depuis ce fameux astronome. Déjà forcé par les circonstances, j'avais depuis quelque temps abandonné ma chambre et transporté mes pénates ailleurs. Le malheur n'est pas grand, dira-t-on, mais comment remplacer Joannetti et Rosine? Oh, ce n'est pas possible. Joannetti m'était devenu si nécessaire que sa perte ne sera jamais réparée pour moi. Qui peut au reste se flatter de vivre toujours avec les personnes qu'il chérit? Semblable à ces essaims de moucherons que l'on voit tourbillonner dans les airs pendant les belles soirées d'été, les hommes nous rencontrent par hasard et pour bien peu de temps. Heureux encore si dans leurs mouvements rapides, aussi adroits que les moucherons, ils ne se rompent pas la tête les uns contre les autres. Je me couchais un soir. Joannetti me servait avec son zèle ordinaire et paraissait même plus attentif. Lorsqu'il emporta la lumière, je jetai les yeux sur lui et je vis une altération marquée sur sa physionomie. Devais-je croire, cependant, que le pauvre Joannetti me servait pour la dernière fois? Je ne prendrai point le lecteur dans une incertitude plus cruelle que la vérité, et je préfère lui dire, sans ménagement, que Joannetti se maria dans la nuit même et me quitta le lendemain. Mais qu'on ne l'accuse pas d'ingratitude pour avoir quitté son maître si brusquement. Je savais son intention depuis longtemps et j'avais eu tort de m'y opposer. Un officieux vint de grand matin chez moi pour me donner cette nouvelle et j'eus le loisir, avant de revoir Joannetti, de me mettre en colère et de m'apaiser, ce qui lui épargna les reproches auxquels il s'attendait. Avant d'entrer dans ma chambre, il affecta de parler haut à quelqu'un depuis la galerie, pour me faire croire qu'il n'avait pas peur, et s'armant de toute l'effronterie qui pouvait entrer dans une bonne âme comme la sienne, il se présenta d'un air déterminé. Je lus à l'instant sur sa figure tout ce qui se passait dans son âme, et je n'en suis pas à mauvais gré. Les mauvais plaisants de nos jours ont tellement effrayé les bonnes gens sur ces dangers du mariage qu'un nouveau marié ressemble souvent à un homme qui vient de faire une chute épouvantable sans se faire aucun mal et qui est à la fois troublé de frayeur et de satisfaction, ce qui lui donne un air ridicule. Il n'était donc pas étonnant que les actions de mon fidèle serviteur se ressentissent de la bizarrerie de sa situation. « Nous voilà donc mariés, mon cher Joannetti, » lui dis-je en riant. Il ne s'était précautionné que contre ma colère, en sorte que tous ses préparatifs furent perdus. Il retomba tout à coup dans son assiette ordinaire, et même un peu plus bas, car il se mit à pleurer. « Que voulez-vous, monsieur ?» me dit-il d'une voix altérée. « J'avais donné ma parole. »« Mais morbleu, tu as bien fait, mon ami. » Puisses-tu être content de ta femme et surtout de toi-même? Puisses-tu avoir des enfants qui te ressemblent? Faudra donc nous séparer. Oui, monsieur, nous comptons aller nous établir à Asti. Et quand veux-tu me quitter? Ici, Joannetti baissa les yeux d'un air embarrassé et répondit de ton plus bas. « Ma femme a trouvé un voiturier de son pays qui retourne avec sa voiture vide et qui part aujourd'hui. Ce sera une belle occasion, mais cependant, ce sera quand il plaira à monsieur, quoiqu'une semblable occasion ne se retrouverait difficilement. « Et quoi, sitôt ?» lui dis-je. Un sentiment de regret et d'affection, mêlé d'une forte dose de dépit, me fit garder un instant le silence. Non, non, certainement, lui répondis-je assez durement. Je ne vous retiendrai pas. Allez, parlez à l'heure même, partez à l'heure même, si cela vous arrange. Joannetti pâlit. Oui, pars, mon ami, va trouver ta femme. Sois toujours aussi bon, aussi honnête que tu l'as été avec moi. Nous fîmes quelque arrangement. Je lui dis tristement adieu. Il sortit. Cet homme me servait depuis 15 ans. Un instant nous a séparés, et je ne l'ai plus revu. Je réfléchissais, en me promenant dans ma chambre, à cette brusque séparation. Brosil avait suivi Joannetti sans qu'il s'en aperçût. Un quart d'heure après, la porte s'ouvrit. Brosil entra. Je vis la main de Joannetti qui la poussa dans la chambre. La porte se referma et je sentis mon cœur se serrer. Il n'entre déjà plus chez moi. Quelques minutes ont suffi pour rendre étrangers l'un à l'autre deux vieux compagnons de 15 ans. Oh, triste, triste condition de l'humanité! de ne pouvoir jamais trouver un seul objet stable sur lequel placer la moindre de ses affections. Rosine aussi vivait alors loin de moi. Vous apprendrez sans doute avec quelque intérêt, ma chère Marie, qu'à l'âge de 15 ans, elle était encore le plus aimable des animaux, et que la même supériorité d'intelligence qui la distinguait jadis de toute son espèce lui servit également à supporter le poids de la vieillesse. J'aurais désiré ne m'en point séparer, mais lorsqu'il s'agit du sort de ses amis, ne doit-on consulter que son plaisir ou son intérêt? L'intérêt de Rosine était de quitter la vie ambulante qu'elle menait avec moi, et de goûter enfin, dans ses vieux jours, un repos que son maître n'espérait plus. Son grand âge l'obligeait à la faire porter, et je crus devoir lui accorder ses invalides. Une religieuse bienfaisante se chargea de la soigner le reste de ses jours, et je sais que dans cette retraite, elle a joui de tous les avantages que ses bonnes qualités, son âge et sa réputation lui avaient si justement mérités. Et, puisque telle est la nature des hommes, que le bonheur semble n'être pas fait pour eux, puisque l'ami offense son ami sans le vouloir, et que les amants eux-mêmes ne peuvent vivre sans se quereller, enfin, puisque depuis Lycurgue jusqu'à nos jours, tous les législateurs ont échoué dans leurs efforts pour rendre les hommes heureux, j'aurais du moins la consolation d'avoir fait le bonheur d'un chien.
Maintenant que je fais connaître au lecteur les derniers traits de l'histoire de Johannetti et de Rosine, il ne me restait plus qu'à dire un mot de l'âme et de la bête pour être parfaitement en règle avec lui. Ces deux personnages, le dernier surtout, ne joueront plus un rôle aussi intéressant dans mon voyage. Un aimable voyageur qui a suivi la même carrière que moi prétend qu'il doit être fatigué. Hélas, il n'a que trop raison. Ce n'est pas que mon âme ait rien perdu de son activité, autant du moins qu'elle peut s'en apercevoir, mais ses relations avec l'autre ont changé. Celle-ci n'a plus la même vivacité dans ses réparties. Elle n'a plus, comment expliquer cela, j'allais dire la même présence d'esprit, comme si une bête pouvait en avoir. Quoi qu'il en soit, et sans entrer dans une explication embarrassante, je dirais seulement qu'entraîné par la confiance que me témoignait la jeune Alexandrine, je lui avais écrit une lettre assez tendre, lorsque j'en reçus une réponse polie mais froide, qui finissait par ses propres termes. « Soyez sûr, monsieur, que je conserverai toujours pour vous les sentiments de l'estime la plus sincère. »« Juste ciel !» m'écriai-je aussitôt, « me voilà perdu !» Depuis ce jour fatal, je résolus de ne plus mettre en avant mon système de l'âme et de la bête. En conséquence, sans faire de distinction entre ces deux êtres et sans les séparer, je les ferai passer l'un portant l'autre, comme certains marchands leurs marchandises, et je voyagerai en bloc pour éviter tout inconvénient. Il serait inutile de parler des dimensions de ma nouvelle chambre. Elle ressemble si fort à la première qu'on s'y méprendrait au premier coup d'œil, si, par une précaution de l'architecte, le plafond ne s'inclinait obliquement du côté de la rue, et ne laissait au toit la direction qu'exigent les lois de l'hydraulique pour l'écoulement de la pluie. Elle reçoit le jour par une seule ouverture de 2,5 pieds de large sur 4 pieds de haut, élevée de 6-7 pieds environ au-dessus du plancher, et à laquelle on arrive au moyen d'une petite échelle. L'élévation de ma fenêtre au-dessus du plancher est une de ces circonstances heureuses qui peuvent être également dues au hasard ou au génie de l'architecte. Le jour presque pendiculaire qu'elle répand dans son réduit lui donnait un aspect mystérieux. Le temple antique du Panthéon reçoit le jour à peu près de la même manière. En outre, aucun objet extérieur ne pouvait me distraire. Semblable à ces navigateurs qui, perdus sur le vaste océan, ne vois plus que le ciel et la mer, je ne voyais que le ciel et ma chambre, et les objets extérieurs les plus voisins sur lesquels pouvaient se porter mes regards étaient la lune ou l'étoile du matin, ce qui me mettait dans un rapport immédiat avec le ciel et donnait mes pensées un vol élevé qu'elles n'auraient jamais eu si j'avais choisi mon logement au rez-de-chaussée. La fenêtre dont j'ai parlé s'élevait au-dessus du toit et formait la plus jolie lucarne. Sa hauteur sur l'horizon était si grande que lorsque les premiers rayons du soleil venaient l'éclairer, il faisait encore sombre dans la rue. Aussi je jouissais d'une des plus belles vues qu'on puisse imaginer. Mais la plus belle vue vous fatigue bientôt lorsqu'on la voit trop souvent. L'œil s'y habitue et l'on n'en fait plus de cas. La situation de ma fenêtre me préservait encore de cet inconvénient, parce que je ne voyais jamais le magnifique spectacle de la campagne de Turin sans monter 4 ou 5 échelons, ce qui me procurait des jouissances toujours vives, parce qu'elles étaient ménagées. Et lorsque, fatigué, je voulais me donner une agréable récréation, je terminais ma journée en montant à ma fenêtre. Au premier échelon, je ne voyais encore que le ciel. Bientôt, le temple colossal du Superglobe commençait à paraître. La colline de Turin, sur laquelle je repose, s'élevait peu à peu devant moi, couverte de forêts et de riches vignobles, offrant avec orgueil, au soleil couchant, ses jardins et ses palais, tandis que des habitations simples et modestes semblaient se cacher à moitié dans ses vallons pour servir de retraite aux sages et favoriser ses méditations. Charmante colline, tu m'as vu souvent rechercher tes retraites solitaires et préférer tes sentiers écartés aux promenades brillantes de la capitale. Tu m'as vu souvent perdu dans les labyrinthes de verdure, attentif au chant de l'alouette matinale, le cœur plein d'une vague inquiétude et du désir ardent de me fixer pour jamais dans tes vallons enchantés. Je te salue, colline charmante. Tu es peinte dans mon cœur. Puisse la rosée céleste rendre, s'il est possible, les champs plus fertiles et tes bocages plus touffus. Puisse tes habitants jouir en paix de leur bonheur et tes ombrages leur être favorables et salutaires. Puisse enfin ton heureuse terre être toujours le doux asile de la vraie philosophie, de la science modeste, de l'amitié sincère et hospitalière que j'y ai trouvée. Je commençais mon voyage à 8 heures du soir précise. Le temps était calme et promettait une belle nuit. J'avais pris mes précautions pour ne pas être dérangé par des visites, qui sont très rares à la hauteur où je logeais, dans les circonstances surtout où je me trouvais alors, et pour rester seul jusqu'à minuit. 4 heures suffisaient amplement à l'exécution de mon entreprise, ne voulant faire pour cette fois qu'une simple excursion autour de ma chambre. Si le premier voyage a duré 42 jours, c'est parce que je n'avais pas été le maître de le faire plus court. Je ne voulus pas non plus m'assujettir à voyager beaucoup en voiture, comme auparavant, persuadé qu'un voyageur pédestre voit beaucoup de choses qui échappent à celui qui court la poste. Je résolus donc d'aller alternativement, et suivant les circonstances, à pied ou à cheval. Nouvelle méthode que je n'ai pas encore fait connaître et dont on verra bientôt l'utilité. Enfin, je me proposais de prendre des notes en chemin et d'écrire mes observations à mesure que je les faisais pour ne rien oublier. Afin de mettre de l'ordre dans mon entreprise et de lui donner une nouvelle chance de succès, je pensais qu'il fallait commencer par composer une épître dédicatoire et l'écrire en vers pour la rendre plus intéressante. Mais 2 difficultés m'embarrassaient et faillirent m'y faire renoncer, malgré tout l'avantage que j'en pouvais tirer. La première était de savoir à qui j'adresserais l'épître, la seconde, comment je m'y prendrais pour faire des vers. Après y avoir mûrement réfléchi, je ne tardais pas à comprendre qu'il était raisonnable de faire premièrement mon épître de mon mieux et de chercher ensuite quelqu'un à qui elle pût convenir. Je me mis à l'instant à l'ouvrage et je travaillai pendant plus d'une heure, sans pouvoir trouver une rime au premier vers que j'avais fait, et que je voulais conserver parce qu'il me paraissait très heureux. Je me souvins alors, fort à propos, d'avoir lu quelque part que le célèbre Pope ne composait jamais rien d'intéressant sans être obligé de déclamer longtemps à haute voix et de s'agiter en tous sens dans son cabinet pour exciter sa verve. J'essayai à l'instant de l'imiter. Je pris les poésies d'Ossian et je les récitai tout haut en me promenant à grands pas pour me montrer et monter à l'enthousiasme. Je vis en effet que cette méthode exaltait insensiblement mon imagination et me donnait un sentiment secret de capacité poétique dont j'aurais certainement profité pour composer avec succès mon épître dédicatoire en vers, si malheureusement je n'avais oublié l'obliquité du plafond de ma chambre, dont l'abaissement rapide empêcha mon front d'aller aussi avant que mes pieds dans la direction que j'avais prise. Et je frappais si rudement de la tête contre cette maudite cloison que le toit de la maison en fut ébranlé. Les moineaux qui y dormaient sur les tuiles s'envolèrent épouvantés et le contre-coup me fit reculer de 3 pas en arrière. Tandis que je me promenais ainsi pour exciter ma verve, une jeune et jolie femme qui logeait au-dessous de moi, étonnée du tapage que je faisais, et croyant peut-être que je donnais un bal dans ma chambre, députa son mari pour s'informer de la cause du bruit. J'étais encore tout étourdi de la contusion que j'avais reçue lorsque la porte s'entr'ouvrit. Un homme âgé, portant un visage mélancolique, avança la tête et promena ses regards curieux dans la chambre. Quand la surprise de me trouver seul lui permit de parler, « Ma femme a la migraine, monsieur, me dit-il d'un air fâché. Permettez-moi de vous faire observer que... » Oh, je l'interrompis aussitôt, et mon style se ressentit de la hauteur de mes pensées. « Respectable messager de ma belle voisine, lui dis-je dans le langage des bardes, pourquoi tes yeux brillent-ils sous les épais sourcils comme deux météores dans la forêt noire de Comba? Mais ta belle compagne est un rayon de lumière, et je mourrais 1000 fois plutôt que de vouloir troubler son repos. Mais ton aspect, ô respectable messager, ton aspect est sombre comme la voûte de la plus reculée de la caverne de Camorra, lorsque les nuages amoncelés de la tempête obscurcissent la face de la nuit et pèsent sur les campagnes silencieuses de Morven. » Le voisin, qui n'avait apparemment jamais lu les poésies d'Ossian, prit, mal à propos, l'accès d'enthousiasme qui m'animait pour un accès de folie et parut fort embarrassé. Mon intention n'étant point de l'offenser, je lui offris un siège et je le priai de s'asseoir. Mais je m'aperçus qu'il se retirait doucement et se signait en disant à demi-voix « Emato, perbacco, emato !» Je le laissai sortir sans vouloir approfondir jusqu'à quel point son observation était fondée, et je m'assis à mon bureau pour prendre note des événements comme je le faisais toujours. Mais à peine eus-je ouvert un tiroir dans lequel j'espérais trouver du papier, que je la refermai brusquement, troublé par un des sentiments les plus désagréables que l'on puisse éprouver, celui de l'amour-propre humilié. L'espèce de surprise dont je fus saisi dans cette occasion ressemble à celle qu'on éprouve un voyageur altéré lorsque, approchant ses lèvres d'une fontaine limpide, il aperçoit au fond de l'eau une grenouille qu'il regarde. Ce n'était cependant autre chose que les ressorts et la carcasse d'une colombe artificielle que l'exemple d'Arquitas, je m'étais proposé jadis de faire voler dans les airs. J'avais travaillé sans relâche à sa construction pendant plus de 3 mois. Le jour de l'essai venu, je la plaçai sur le bord d'une table, après avoir soigneusement fermé la porte, afin de tenir la découverte secrète et de causer une aimable surprise à mes amis.
un fil tenait le mécanisme immobile. Qui pourrait imaginer les palpitations de mon cœur et les angoisses de mon amour-propre lorsque j'approchais les ciseaux pour couper le lien fatal? Zest, le ressort de la colombe part et se développe avec bruit. Je lève les yeux pour la voir passer. Mais après avoir fait quelques tours sur elle-même, elle tombe et va se cacher sous la table. Rosine, qui dormait là, s'éloigna tristement. Rosine, qui ne vit jamais ni poulet, ni pigeon, ni le plus petit oiseau sans les attaquer et les poursuivre, ne daigna pas même regarder ma colombe qui se débattait sur le plancher. Ce fut le coup de grâce pour mon amour-propre. J'allais prendre l'air sur les remparts. Tel fut le sort de ma colombe artificielle. Tandis que le génie de la mécanique la destinait à suivre l'aigle dans les cieux, le destin lui donna les inclinations d'une taupe. Je me promenais, tristement et découragé, comme on l'est toujours après une grande espérance déçue, lorsque, levant les yeux, j'aperçus un vol de grues qui passait sur ma tête. Je m'arrêtai pour les examiner. Elles s'avançaient en ordre triangulaire, comme la colonne anglaise à la bataille de Fontenoy. Je les voyais traverser le ciel de nuage en nuage. « Ah, qu'elle vole bien !» disais-je tout bas. « Avec quelle assurance elle semble glisser sur l'invisible sentier qu'elle parcourt !» L'avouerai-je ? Ah, hélas, qu'on me le pardonne ! L'horrible sentiment de l'envie est une fois, une seule fois entré dans mon cœur, et c'était pour des grues. Je les poursuivais de mes regards jaloux jusqu'aux bornes de l'horizon. Longtemps immobile au milieu de la foule qui se promenait, j'observais le mouvement rapide des hirondelles et je m'étonnais de les voir suspendues dans les airs, comme si je n'avais jamais vu ce phénomène. Le sentiment d'une admiration profonde, inconnue pour moi jusqu'alors, éclairait mon âme. Je croyais voir la nature pour la première fois. J'entendais avec surprise le bourdonnement des mouches, le chant des oiseaux et ce bruit mystérieux et confus de la création vivante qui célèbre involontairement son auteur. Concert ineffable auquel l'homme seul a le privilège sublime de pouvoir joindre des accents de reconnaissance. Quel est l'auteur de ce brillant mécanisme ? M'écriai-je dans le transport qui m'animait. Quel est celui qui, ouvrant sa main créatrice, laissa échapper la première hirondelle dans les airs, celui qui donna l'ordre à ses arbres de sortir de la terre et d'élever leurs rameaux vers le ciel. Et toi, qui t'avances majestueusement sous leur ombre, créature ravissante dont les traits commandent le respect et l'amour, qui t'as placé sur la surface de la terre pour t'embellir, qui ? Quelle est la pensée qui dessina les formes divines, qui fut assez puissante pour créer le regard et le sourire de l'innocente beauté? Et moi-même, qui sens palpiter mon cœur, quel est le bruit de mon existence? Qui suis-je et d'où viens-je, moi, l'auteur de la colombe artificielle centripète? À peine eus-je prononcé ce mot barbare, que revenant tout à coup à moi comme un homme endormi sur lequel on jetterait un seau d'eau, je m'aperçus que plusieurs personnes m'avaient entouré pour m'examiner, tandis que mon enthousiasme me faisait parler seul. Je vis alors la belle Georgine qui me devançait de quelques pas. La moitié de sa joue gauche, chargée de rouge, que j'entrevoyais à travers les boucles de sa perruque blonde, acheva de me remettre au courant des affaires de ce monde dont je venais de faire une petite absence. Dès que je fus un peu remis du trouble que m'avait causé l'aspect de ma colombe artificielle, la douleur de la contusion que j'avais reçue se fit sentir vivement. Je passai la main sur mon front et j'y reconnus une nouvelle protubérance, précisément à cette partie de la tête où le docteur Gall a placé la protubérance poétique. Mais je n'y songeais point alors, et l'expérience devait seule me démontrer la vérité du système de cet homme célèbre.
Après m'être recueilli quelques instants pour faire un dernier effort en faveur de mon épître dédicatoire, je pris un crayon et me mis à l'ouvrage. Quel fut mon étonnement! Les vers coulaient d'eux-mêmes sous ma plume. J'en remplis 2 pages en moins d'une heure, et je conclus de cette circonstance que si le mouvement était nécessaire à la tête de Pope pour composer des vers, il ne fallait pas moins qu'une contusion pour en tirer de la mienne. Je ne donnerai cependant pas au lecteur ce que je fis alors, parce que la rapidité prodigieuse avec laquelle se succédaient les aventures de mon voyage m'empêcha d'y mettre la dernière main. Malgré cette réticence, il n'est pas douteux qu'on doit regarder l'accident qui m'était arrivé comme une découverte précieuse et dont les poètes ne seraient trop usés. Je suis en effet si convaincu de l'infaillibilité de cette nouvelle méthode que dans le poème en 24 chants que j'ai composé depuis lors et qui sera publié avec La prisonnière de Pignerol, je n'ai pas cru nécessaire jusqu'à présent de commencer les vers. Mais j'ai mis au net 500 pages de notes, qui forment, comme on le sait, tout le mérite et le volume de la plupart des poèmes modernes. Comme je rêvais profondément à mes découvertes, en marchant dans ma chambre, je rencontrai mon lit sur lequel je tombais assis, et ma main, se trouvant par hasard placée sur mon bonnet, je pris le parti de m'en couvrir la tête et de me coucher. J'étais au lit depuis 1/4 d'heure et, contre mon ordinaire, je ne dormais point encore. À l'idée de mon épître dédicatoire avaient succédé les réflexions les plus tristes. Ma lumière, qui tirait vers sa fin, ne jetait plus qu'une lueur inconstante et lugubre du fond de la bobèche, et ma chambre avait l'air d'un tombeau. Un coup de vent ouvrit tout à coup la fenêtre, éteignit ma bougie, et ferma la porte avec violence. La teinte noire de mes pensées s'accrut avec l'obscurité. Tous mes plaisirs passés, toutes mes peines présentes, vinrent fondre à la fois dans mon cœur et le remplir de regrets et d'amertume. Quoique je fasse des efforts continuels pour oublier mes chagrins et les chasser de ma pensée, il m'arrive quelquefois, lorsque je n'y prends pas garde, qu'ils rentrent tous à la fois dans ma chambre, comme si on leur ouvrait une écluse. Il ne me reste plus d'autre parti à prendre dans ces occasions que de m'abandonner au torrent qui m'entraîne, et mes idées deviennent alors si noires, tous les objets me paraissent si lugubres, que je finis ordinairement par rire de ma folie, en sorte que le remède se trouve dans la violence même du mal. J'étais encore dans toute la force d'une de ces crises mélancoliques, lorsqu'une partie de la bouffée de vent qui avait ouvert ma fenêtre et fermé ma porte en passant, après avoir fait quelques tours dans ma chambre, feuilleté mes livres et jeté une feuille folante de mon voyage par terre, entra finalement dans mes rideaux et vint mourir sur ma joue. Je sentis la douce fraîcheur de la nuit, et regardant cela comme une invitation de sa part, je me levai tout de suite et j'allai sur mon échelle jouir du calme de la nature. Le temps était serein. La voie lactée, comme un léger nuage, partageait le ciel. Un doux rayon partait de chaque étoile pour venir jusqu'à moi, et lorsque j'en examinais une attentivement, ses compagnes semblaient scintiller plus vivement pour attirer mes regards. C'était un charme toujours nouveau pour moi que celui de contempler le ciel étoilé, et je n'ai pas à me reprocher d'avoir fait un seul voyage, ni même une seule promenade nocturne, sans payer le tribut d'admiration que je dois aux merveilles du firmament. Quoique je sente toute l'impuissance de ma pensée dans ces hautes méditations, je trouve un plaisir inexprimable à m'en occuper. J'aime à penser que ce n'est point le hasard qui conduit jusqu'à mes yeux cette émanation des mondes éloignés, et chaque étoile verse avec sa lumière un rayon d'espérance dans mon cœur. Et quoi? Ces merveilles n'auraient-elles d'autre rapport avec moi que celui de briller à mes yeux? Et ma pensée qui s'élève jusqu'à elles
Mon cœur qui s'émeut à leur aspect, leur seraient-ils étrangers? Spectateurs éphémères d'un spectacle éternel, l'homme lève un instant les yeux vers le ciel et les referme pour toujours. Mais pendant cet instant rapide qui lui est accordé, de tous les points du ciel et depuis les bornes de l'univers, un rayon consolateur part de chaque monde et vient frapper ses regards pour lui annoncer qu'il existe un rapport entre l'immensité et lui et qu'il est associé à l'éternité. Un sentiment fâcheux troublait cependant le plaisir que j'éprouvais en me livrant à ces méditations. Combien peu de personnes, me disais-je, jouissent maintenant avec moi du spectacle sublime que le ciel étale inutilement pour les hommes assoupis. Passe encore pour ceux qui dorment, mais qu'en coûterait-il à ceux qui se promènent, à ceux qui sortent en foule du théâtre, de regarder un instant et d'admirer les brillantes constellations qui rayonnent de toutes parts sur leur tête? Non, les spectateurs attentifs de Scapin ou de Jocris ne daigneront pas lever les yeux. Ils vont rentrer brutalement chez eux ou ailleurs, sans songer que le ciel existe. Quelle bizarrerie! Parce qu'on peut le voir souvent et gratis, ils n'en veulent pas. Si le firmament était toujours voilé pour nous, si le spectacle qu'il nous offre dépendait d'un entrepreneur, les premières loges sur les toits seraient hors de prix et les dames de Turin s'arracheraient ma lucarne. Oh, si j'étais souverain d'un pays, m'écriai-je, saisi d'une juste indignation, mais je ferais chaque nuit sonner le tocsin, et j'obligerais mes sujets de tout âge, de tout sexe, de toute condition, de se mettre à la fenêtre et de regarder les étoiles. Ici, la raison qui, dans mon royaume, n'a qu'un droit à contester de remontrance, fut cependant plus heureuse qu'à l'ordinaire dans les représentations qu'elle me proposa au sujet de Lady inconsidérée que je voulais proclamer dans mes états. « Sire, me dit-elle, votre majesté ne dirait-elle pas faire une exception en faveur des nuits pluvieuses, puisque dans ce cas le ciel est encouvert ?»« Ah, mais fort bien, repris-je. Je n'y avais pas songé. Vous noterez donc une exception en faveur des nuits pluvieuses. » Sire, ajouta-t-elle, je pense qu'il serait à propos d'accepter aussi les nuits sereines, lorsque le froid est excessif et que la bise souffle, puisque l'exécution rigoureuse de Lady accablerait vos heureux sujets de rhume et de catarrhe. Je commençais à avoir beaucoup de difficultés dans l'exécution de mon projet, mais il m'en coûtait de revenir sur mes pas. Ben, il faudra, dis-je, écrire au Conseil de médecine et à l'Académie des sciences pour fixer le degré du thermomètre centigrade auquel mes sujets pourront se dispenser de se mettre à la fenêtre. Mais je veux, j'exige absolument que l'ordre soit exécuté à la rigueur. Et les malades, sire? Oh, cela va sans dire qu'ils soient acceptés. L'humanité doit aller avant tout. Si je te craignais de fatiguer votre majesté, je lui ferais encore observer que l'on pourrait, dans le cas où elle le jugerait à propos et que la chose ne présente pas de grands inconvénients, ajouter aussi une exception en faveur des aveugles, puisque, étant privés de l'organe de la vue... Eh bien, est-ce tout ? Interrompis-je avec humeur. Pardon, sire, mais les amoureux, le cœur du bonheur de votre majesté pourrait-il les contraindre à regarder aussi les étoiles ? C'est bon, dit le roi. Remettons cela, nous y penserons à tête reposée. Vous me donnerez un mémoire détaillé là-dessus. Bon Dieu, mais combien il faut réfléchir avant de donner un délit de haute police. Les étoiles les plus brillantes n'ont jamais été celles que je contemple avec plus de plaisir. Mais les plus petites, celles qui, perdues dans un éloignement incommensurable, ne paraissent que comme des points imperceptibles, ont toujours été mes étoiles favorites. La raison en est toute simple. On concevra facilement qu'en faisant faire à mon imagination autant de chemin de l'autre côté de leur sphère que mes regards en font de celui-ci pour parvenir jusqu'à elle, je me trouve porté sans effort à une distance où peu de voyageurs sont parvenus avant moi. Et je m'étonne, en me trouvant là, de n'être encore qu'au commencement de ce vaste univers. Car il serait, je crois, ridicule de penser qu'il existe une barrière au-delà de laquelle le néant commence, comme si le néant était plus facile à comprendre que l'existence. Après la dernière étoile, j'en imagine encore une autre, qui ne saurait non plus être la dernière. En assignant des limites à la création, tant soit-elle éloignée, l'univers ne me paraît plus qu'un point lumineux, comparé à l'immensité de l'espace vide qui l'environne, à cet affreux et sombre néant au milieu duquel il serait suspendu comme une lampe solitaire. Ici, je me couvre les yeux avec les deux mains pour m'éloigner de toute espèce de distraction et donner à mes idées la profondeur qu'un semblable sujet exige. Et faisant un effort de tête surnaturel, je composais un système de monde le plus complet qui est encore paru. On le voici dans tous ses détails. Il est le résultat des méditations de toute ma vie. Je crois que l'espace étant... Mais ceci mérite un chapitre à part. Et vu l'importance de la matière, il sera le seul de mon voyage qui portera un titre. Système du monde. Je crois donc que l'espace étant infini, la création l'est aussi, et que Dieu a créé dans son éternité une infinité dans l'immensité de l'espace de monde. J'avouerai cependant de bonne foi que je ne comprends guère mieux mon système que tous les autres systèmes éclos jusqu'à ce jour de l'imagination des philosophes anciens et modernes. Mais le mien a l'avantage précieux d'être contenu dans quatre lignes, tout énorme qu'il est. Le lecteur indulgent voudra bien observer aussi qu'il a été composé tout entier au sommet d'une échelle. Je l'aurais cependant embelli de commentaires et de notes, si dans le moment où j'étais le plus fortement occupé de mon sujet, je n'avais été distrait par des chants enchanteurs qui vinrent frapper agréablement mon oreille. Une voix, telle que je n'en ai jamais entendue, de plus mélodieuse, sans en excepter même celle de Zénéide, une de ces voix qui sont toujours à l'unisson des fibres de mon cœur, chantait tout près de moi une romance dont je ne perdis pas un mot et qui ne sortira jamais de ma mémoire. En écoutant avec attention, je découvris que la voix partait d'une fenêtre plus basse que la mienne. Malheureusement, je ne pouvais pas la voir. L'extrémité du toit au-dessus duquel s'élevait ma lucarne, la cachant à mes yeux. Cependant, le désir d'apercevoir la sirène qui me charmait par ses accords augmentait à proportion du charme de la romance, dont les paroles touchantes auraient arraché des larmes à l'être le plus insensible. Bientôt, ne pouvant plus résister à ma curiosité, je montai jusqu'au dernier échelon. Je mis un pied sur le bord du toit, et me tenant d'une main au montant de la fenêtre, je me suspendis ainsi sur la rue, au risque de me précipiter. Je vis alors, sur un balcon à ma gauche, un peu au-dessous de moi, une jeune femme en déshabillé blanc. Sa main soutenait sa tête charmante, assez penchée pour laisser entrevoir à la lueur des astres le profil le plus intéressant, et son attitude semblait imaginée pour présenter dans tout son jour à un voyageur aérien comme moi une taille svelte et bien prise. Un de ses pieds nus, jetés négligemment en arrière, était tourné de façon qu'il m'était possible, malgré l'obscurité, d'en présumer les heureuses dimensions, tandis qu'une jolie petite mule dont il était séparé les déterminait encore mieux à mon œil curieux. Oh, je vous laisse à penser, ma chère Sophie, quelle était la violence de ma situation. Je n'osais faire la moindre exclamation de peur d'effaroucher ma belle voisine, ni le moindre mouvement de peur de tomber dans la rue. Un soupir m'échappa cependant malgré moi, mais je fus à temps d'en retenir la moitié. Le reste fut emporté par un zéphyr qui passait, et j'eus tout le loisir d'examiner la rêveuse, soutenue dans cette position périlleuse par l'espoir d'entendre chanter encore. Mais, hélas, la romance était finie, et mon mauvais destin lui fit garder le silence le plus opiniâtre. Enfin, après avoir attendu bien longtemps, je crus pouvoir me hasarder à lui adresser la parole. Il ne s'agissait plus que de trouver un compliment digne d'elle et des sentiments qu'elle m'avait inspirés. Oh ! Combien je regrettais de n'avoir pas terminé mon épître dédicatoire en vers, comme je l'aurais placé à propos dans cette occasion. Ma présence d'esprit ne m'abandonna cependant pas au besoin. Inspirée par la douce influence des astres et par le désir plus puissant encore de réussir auprès d'une belle, après avoir toussé légèrement pour la prévenir et pour rendre le son de ma voix plus doux, « Il fait bien beau temps cette nuit !» lui dis-je du ton le plus affectueux qu'il me fut possible. « Je crois entendre d'ici Madame de Haut-Castel, qui ne me passe rien, me demander compte de la romance dont j'ai parlé dans le chapitre précédent. Pour la première fois de ma vie, je me trouve dans la dure nécessité de lui refuser quelque chose. Si j'insérais ses vers dans mon voyage, on ne manquerait pas de m'en croire l'auteur, ce qui m'attirerait sur la nécessité des confusions, plus d'une mauvaise plaisanterie que je veux éviter. Je continuerai donc la relation de mon aventure avec mon aimable voisine, aventure dont la catastrophe inattendue, ainsi que la délicatesse avec laquelle je l'ai conduite, sont faites pour intéresser toutes les classes de lecteurs. Mais avant de savoir ce qu'elle me répondit, et comment fut reçu le compliment ingénieux que je lui avais adressé, je dois répondre d'avance à certaines personnes qui se croient plus éloquentes que moi et qui me condamnent sans pitié pour avoir commencé la conversation d'une manière si triviale à leur sens. Je leur prouverai que si j'avais fait de l'esprit dans cette occasion importante, j'aurais manqué ouvertement aux règles de la prudence et du bon goût. Tout homme qui entre en conversation avec une belle en disant un beau mot ou en faisant un compliment, quelque flatteur qu'il puisse être, laisse entrevoir des prétentions qui ne doivent paraître que lorsqu'elles commencent à être fondées. En outre, s'il fait de l'esprit, il est évident qu'il cherche à briller et par conséquent qu'il pense moins à sa dame qu'à lui-même. Or, les dames veulent qu'on s'occupe d'elles. Et quoiqu'elles ne fassent pas toujours exactement les mêmes réflexions que je viens d'écrire, elles possèdent un sens exquis et naturel qui leur apprend qu'une phrase triviale, dite par le seul motif de lier la conversation et de s'approcher d'elle, vaut mille fois mieux qu'un trait d'esprit inspiré par la vanité, et mieux encore, ce qui paraîtra bien étonnant, qu'une épître dédicatoire en vers. Bien plus, je soutiens, dû mon sentiment être regardé comme un paradoxe, que cet esprit léger et brillant de la conversation n'est pas même nécessaire dans la plus longue liaison, si c'est vraiment le cœur qui l'a formé. Et malgré tout ce que les personnes qui n'ont aimé qu'à demi disent des longs intervalles que laissent entre eux les sentiments vifs de l'amour et de l'amitié, la journée est toujours courte lorsqu'on la passe auprès de son ami et que le silence est aussi intéressant que la discussion. Quoi qu'il en soit de ma dissertation, il est très sûr que je ne vis rien de mieux à dire sur le bord du toit où je me trouvais que les paroles en question. Je ne les eus pas plutôt prononcées que mon âme se transporta tout entière au tympan de mes oreilles pour saisir jusqu'à la moindre nuance des sons que j'espérais entendre. La belle releva sa tête pour me regarder. Ses longs cheveux se déployèrent comme un voile et servirent de fond à son visage charmant qui réfléchissait la lumière mystérieuse des étoiles. Déjà, sa bouche était entr'ouverte, ses douces paroles s'avançaient sur ses lèvres. Mais ô ciel, quelle fut ma surprise et ma terreur! Un bruit sinistre se fit entendre. « Que faites-vous de là, madame, à cette heure? Rentrez !» dit une voix mâle et sombre et sonore dans l'intérieur de l'appartement. Oh, je fus pétrifié! Tel doit être le bruit que vient effrayer les coupables lorsqu'on ouvre tout à coup devant eux les portes brûlantes du Tartare. Ou tel encore doit être celui que font, sous les voûtes infernales, les sept cataractes du Styx dont les poètes ont oublié de parler. Un feu follet traversa le ciel en ce moment et disparut presque aussitôt. Mes yeux, que la clarté du météore avait détournés un instant, se reportèrent sur le balcon et n'y virent plus que la petite pantoufle. Ma voisine, dans sa retraite précipitée, avait oublié de la reprendre. Je contemplai longtemps ce joli moule d'un pied digne du ciseau de Praxitèle avec une émotion dont je n'osais avouer toute la force. Mais ce qui pourrait paraître bien singulier, et ce dont je ne saurais me rendre raison à moi-même, c'est qu'un charme insurmontable m'empêchait d'en détourner mes regards malgré tous les efforts que je faisais pour les porter sur d'autres objets. On raconte que lorsqu'un serpent regarde un rossignol, le malheureux oiseau, victime d'un charme irrésistible, est forcé de s'approcher du reptile vorace. Ses ailes rapides ne lui servent plus qu'à le conduire à sa perte, et chaque effort qu'il fait pour s'éloigner le rapproche de l'ennemi qui le poursuit de son regard inévitable. Tel était sur moi l'effet de cette pantoufle. Sans que cependant je puisse dire avec certitude qui, de la pantoufle de moi, était le serpent, puisque, selon les lois de la physique, l'attraction devait être réciproque. Il est certain que cette influence n'eût fait funeste n'était point un jeu de mon imagination. J'étais si réellement et si fortement attiré que je fus deux fois au moment de lâcher la main et de me laisser tomber. Cependant, comme le balcon sur lequel je voulais aller n'était pas exactement sous ma fenêtre, mais un peu de côté, je vis fort bien que la force de gravitation inventée par Newton venant à se combiner avec l'attraction oblique de la pantoufle, j'aurais suivi dans ma chute une diagonale et je serais tombé sur une guérite qui ne me paraissait pas plus grosse qu'un œuf de la hauteur où je me trouvais, en sorte que mon but aurait été manqué. Je me cramponnai donc plus fortement encore à la fenêtre, et faisant un effort de résolution, je parvins à lever les yeux et à regarder le ciel. Je serais fort en peine d'expliquer et de définir exactement l'espèce de plaisir que j'éprouvais dans cette circonstance. Tout ce que je puis affirmer, c'est qu'il n'avait rien de commun avec celui qui m'avait fait ressentir, quelques moments plus tôt, l'aspect de la Voie lactée et du ciel étoilé. Cependant, comme dans les situations embarrassantes de ma vie, j'ai toujours aimé à me rendre raison de ce qui se passe dans mon âme. Et je voulus en cette occasion me faire une idée bien nette du plaisir que peut ressentir un honnête homme lorsqu'il contemple la pantoufle d'une dame comparé au plaisir que lui fait éprouver la contemplation des étoiles. Pour cet effet, je choisis dans le ciel la constellation la plus apparente. C'était, si je ne me trompe, la chaise de Cassiopée qui se trouvait au-dessus de ma tête, et je regardais tour à tour la constellation et la pantoufle, la pantoufle et la constellation. Je vis alors que les deux sensations était de nature toute différente. L'une était dans ma tête, l'autre, dit que l'autre, semblait avoir son siège dans la région du cœur. Mais ce que je n'avouerai pas, sans un peu de honte, c'est que l'attrait qui me portait vers la pantoufle enchantée absorbait toutes mes facultés. L'enthousiasme que m'avait causé quelque temps auparavant l'aspect du ciel étoilé n'existait plus que faiblement. Et bientôt il s'anéantit tout à fait lorsque j'entendis la porte du balcon se rouvrir et que j'aperçus un petit pied, plus blanc que l'albâtre, s'avancer doucement et s'emparer de la petite mule. Je voulus parler, mais n'ayant pas eu le temps de me préparer comme la première fois, je ne trouvais plus ma présence d'esprit ordinaire, et j'entendis la porte du balcon se refermer avant d'avoir imaginé quelque chose de convenable à dire. Les chapitres précédents suivront, j'espère, pour répondre victorieusement à une inculpation de Madame de Haut-Castel, qui n'a pas craint de dénigrer mon premier voyage sous le prétexte qu'on n'a pas l'occasion d'y faire l'amour. Elle ne pourrait faire ce nouveau voyage, je me reproche, et quoique mon aventure avec mon aimable voisine n'ait pas été poussée bien loin, je puis assurer que j'y trouvais plus de satisfaction que dans plus d'une autre circonstance où je m'étais imaginé être très heureux, faute d'objet de comparaison. Chacun jouit de la vie à sa manière, mais je croirais manquer à ce que je dois de la bienveillance du lecteur si je lui laissais ignorer une découverte qui, plus que toute autre chose, a contribué jusqu'ici à mon bonheur. À condition toutefois que cela restera entre nous, car il ne s'agit de rien moins que d'une nouvelle méthode de faire l'amour, beaucoup plus avantageuse que la précédente, sans avoir aucun de ses nombreux inconvénients. Cette invention étant spécialement destinée aux personnes qui voudront adopter ma nouvelle manière de voyager, je crois devoir consacrer quelques chapitres à leur instruction. J'avais observé, dans le cours de ma vie, que lorsque j'étais amoureux, suivant la méthode ordinaire, mes sensations ne répondaient jamais à mes espérances, et que mon imagination se voyait déjouée dans tous ses plans. En y réfléchissant avec attention, je pensais que, s'il m'était possible d'étendre le sentiment qui me porte à l'amour individuel sur tout le sexe qui en est l'objet, je me procurerais des jouissances nouvelles, sans me compromettre en aucune façon. Quel reproche, en effet, pourrait-on faire à un homme qui se trouverait pourvu d'un cœur assez énergique pour aimer toutes les femmes aimables de l'univers? Oui, madame, je les aime toutes, et non seulement celles que je connais ou que j'espère rencontrer, mais toutes celles qui existent sur la surface de la terre. Bien plus, j'aime toutes les femmes qui ont existé et celles qui existeront, sans compter un bien plus grand nombre encore que mon imagination tire du néant. Toutes les femmes possibles, enfin, sont comprises dans le vaste cercle de mes affections. Par quel injuste et bizarre caprice renfermerais-je un cœur comme le mien dans les bornes étroites d'une société? Que dis-je? Pourquoi circonscrire son essor aux limites d'un royaume ou même d'une république? Assise au pied d'un chêne battu par la tempête, une jeune veuve indienne mêle ses soupirs au bruit des vents déchaînés. Les armes du guerrier qu'elle aimait sont suspendues sur sa tête, et le bruit lugubre qu'elles font entendre en se heurtant ramène dans son cœur le souvenir de son bonheur passé. Cependant, la foudre sillonne les nuages et la lumière livide des éclairs se réfléchit dans ses yeux immobiles. Tandis que le bûcher qui doit la consumer s'élève, seule, sans consolation, dans la stupeur du désespoir, elle attend une mort affreuse qu'un préjugé cruel lui fait préférer à la vie. Et quelle douce et mélancolique puissance n'éprouve point un homme sensible en approchant de cette infortunée pour la consoler. Tandis qu'assis sur l'herbe à côté d'elle, je cherche à la dissuader de l'horrible sacrifice et que, mêlant mes soupirs aux siens et mes larmes à ses larmes, je tâche de la distraire de ses douleurs. Toute la ville accourt chez Madame Dard, dont le mari vient de mourir d'un coup d'apoplexie. Résolue aussi de ne point survivre à son malheur, insensible aux larmes et aux prières de ses amis, elle se laisse mourir de faim. Et depuis ce matin, où imprudemment on est venu lui annoncer cette nouvelle, la malheureuse n'a mangé qu'un biscuit et n'a bu qu'un petit verre de vin de Malaga. Je le donne à cette femme désolée que la simple attention nécessaire pour ne pas enfreindre les lois de mon système universel, et je m'éloigne bientôt de chez elle, parce que je suis naturellement jaloux et ne veux pas me compromettre avec une foule de consolateurs, non plus qu'avec les personnes trop aisées à consoler. Les beautés malheureuses ont particulièrement des droits sur mon cœur, et le tribut de sensibilité que je leur dois n'affaiblit point l'intérêt que je porte à celles qui sont heureuses. Cette disposition varie à l'infini mes plaisirs et me permet de passer tout à coup de la mélancolie à la gaieté et d'un repos sentimental à l'exaltation. Souvent aussi, je forme des intrigues amoureuses dans l'histoire ancienne et j'efface des lignes entières dans les vieux registres du destin. Combien de fois n'ai-je pas arrêté la main parricide de Virginius et sauvé la vie à sa fille infortunée, victime à la fois de l'excès du crime et de celui de la vertu. Cet événement me remplit de terreur lorsqu'il revient à ma pensée. Je ne m'étonne point s'il fut l'origine d'une révolution. J'espère que les personnes raisonnables, ainsi que les âmes compatissantes, me sauront gré d'avoir arrangé cette affaire à l'amiable, et tout homme qui connaît un peu le monde jugera comme moi que, si on avait laissé faire le décemvir, cet homme passionné n'aurait pas manqué de rendre justice à la vertu de Virginie. Les parents s'en seraient mêlés, et le père Virginius, à la fin, se serait apaisé, et le mariage s'en serait suivi dans toutes les formes voulues par la loi. Mais le malheureux amant délaissé, que serait-il devenu? Eh bien, l'amant, qu'a-t-il gagné à ce meurtre? Et puisque vous voulez bien vous impitoyer sur son sort, je vous apprendrai, ma chère Marie, que 6 mois après la mort de Virginie, il était non seulement consolé, mais très heureusement marié, et qu'après avoir eu plusieurs enfants, il perdit sa femme et se remaria 6 semaines après avec la veuve d'un tribun du peuple. Ces circonstances ignorées jusqu'à ce jour ont été découvertes et déchiffrées dans un manuscrit palimpseste de la bibliothèque ambroisienne par un savant antiquaire italien. Elles augmenteront malheureusement d'une page l'histoire abominable et déjà trop longue de la République romaine.